Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui au manoir du Plessis-aux-Bois, à côté de Vaucienne, en compagnie de Diane Lehec et Thierry Decouter. Cet après-midi, il va y avoir une visite autour des oiseaux, organisée donc par Thierry Decouter de la LPO au manoir du Plessis-aux-Bois. Pourquoi ce lieu aujourd'hui ? Pourquoi le manoir ? Et il paraît que c'est devenu un refuge LPO, Diane ?
Oui, tout à fait, c'est un refuge LPO. J'ai pris connaissance de la LPO parce que les faucons sont venus s'installer ici. Et pour en savoir plus sur comment gérer cette présence, je me suis renseignée et on m'a parlé de la LPO. J'ai fait la connaissance de Thierry Decouter et c'est comme ça que j'ai donc adhéré. Et maintenant, je suis un refuge. Enfin, si on peut dire, je suis un refuge pour les faucons. Et les chouettes, il y a un couple de chouettes effraies qui s'est installé depuis également.
Et ce sont des oiseaux qui reviennent tous les ans. En fait, bah, Thierry, tu vas peut-être nous expliquer comment fonctionnent les faucons et les chouettes.
Ils sont assez fidèles, effectivement, à leur lieu de nidification. S'ils s'y trouvent bien, s'ils sont pas dérangés, s'il y a de la nourriture autour, s'ils arrivent à nicher d'une année sur l'autre et à amener leurs petits à l'âge de l'envol, il n'y a aucune raison que l'année suivante, ils ne reviennent pas. Alors la seule chose qui peut se passer, et ça s'est produit, je crois, une fois, ici, c'est que l'un des membres du couple disparaisse, accident, vieillesse, etc. Et là, bon, le problème, c'est que si le partenaire qui revient l'année suivante est tout seul, parce qu'ils ne passent pas l'hiver ensemble, hein, souvent, si le partenaire...
Ils se séparent au moment de l'hiver.
Bon, ils peuvent se séparer, c'est pas systématique, mais ils peuvent se séparer, vivre leur vie de chacun de leur côté. Et par contre, ils reviennent l'année suivante sur le site de nidification. Si le deuxième ne vient pas, bah évidemment, leur soit, ils arrivent
pas,
à trouver un partenaire, alors il n'y a pas de réseaux sociaux, tout ça, ça se fait à l'ancienne, hein, mais ça marche bien apparemment. Hein. Non, il n'y a aucune raison qu'ils quittent le coin. Et c'est vrai qu'ici, moi ce qui m'a impressionné lorsque Diane m'a contacté il y a 5-6 ans maintenant, je crois, c'est le fait que bah, tranquillement ici, on a une richesse au niveau des oiseaux qui est assez impressionnante, ouais, c'est vrai.
Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme autre espèce, à part les chouettes effraies et les faucons dans les jardins du manoir ?
Alors, en venant 2-3 fois par an, c'est ce que je fais, je viens visiter, boire un petit café et puis discuter avec Diane et on fait le tour du jardin. On voit quand même, on va dire 20-25 espèces différentes d'oiseaux qui, certaines, peuvent nicher sur le site. Alors, actuellement, ce sont les hirondelles, par exemple, qui sont autour. Alors, je ne sais pas si elles nichent. On va voir ça. Les bergeronnettes grises, on a du moineau, évidemment, merle, rouge queue noire, etc. Non, c'est assez riche. Et puis toutes les mésanges, verdiers, pinsons, ça, c'est les classiques. Puis c'est aussi l'idée, c'est de montrer aux visiteurs qu'on peut, si on le souhaite, transformer chaque jardin, chaque propriété en refuge, c'est clair.
Et justement, un refuge LPO, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bah, les oiseaux sont bienvenus, mais c'est un espace protégé. Ça veut dire quoi exactement ? Bon, la LPO, je dis ce que c'est parce qu'il y a certains auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la Ligue de protection des oiseaux.
C'est la Ligue pour la protection des oiseaux qui œuvre depuis plus de 100 ans maintenant pour la protection, alors pas seulement des oiseaux maintenant, ça s'est élargi, mais on va dire la protection de la biodiversité, du patrimoine que l'on peut avoir dans tous les jardins, dans tous les terrains, même sur votre balcon. Il se passe des choses et si vous faites un minimum d'efforts, ce que fait évidemment Diane, vous pouvez leur faciliter la vie, les accueillir, etc.
Les repérer déjà.
Les repérer aussi, oui. Ouais, bien sûr. Ouais.
Il faut déjà être dans l'observation en fait. Hein. De toute façon, c'est le début.
Oui, bah déjà, oui.
On
en
les
fait,
aussi.
il faut être dans l'observation. Il faut ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux. Aimer boire son café le matin en regardant ce qui se passe autour de chez soi.
Pour ceux qui ont le temps, parce que...
Bah oui. C'est sympa de voir ici, quand on se promène dans les jardins, c'est quand même sympa de voir apparaître toutes ces variétés d'oiseaux, puis aussi les fleurs, les plantes. Faut pas se limiter aux oiseaux, il y a les fleurs, les plantes, les insectes, etc.
Tout ensemble,
aussi,
on est bien
ouais,
d'accord.
Tout à fait, ouais.
Mais donc un refuge LPO, ça veut dire quoi ?
Alors, un refuge LPO...
Ça veut dire qu'on va le visiter comme vous faites cet après-midi, par exemple ou,
Alors, un refuge LPO, le propriétaire est bien entendu toujours le maître des lieux. Mm-hmm. S'il souhaite l'ouvrir de temps en temps, une fois par an, Aux visites, c'est formidable. En plus, ici, on est dans un site magnifique. Hein. Il y a évidemment l'histoire, le bâtiment, l'architecture. Le fait aussi que Diane est une artiste, elle fait des œuvres, etc. Donc, on va certainement pouvoir les voir. Puis, bien sûr, il y a toute la nature qui s'est invitée ici au fil des décennies parce que les jardins sont vastes. Il y a plein de buissons, plein de haies, il y a des plans d'eau, c'est très sympa pour les oiseaux.
Il y a une forme d'engagement, il me semble, quand même.
Bien sûr.
Quand on demande à être refuge LPO, c'est aussi parce qu'on prend un engagement, il me semble.
Exact. C'est évidemment une convention que l'on signe, qu'on accepte, qui est de gérer de façon, on va dire, intelligente et naturel le terrain que l'on met en refuge, le jardin, ça peut être le balcon, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est un engagement moral du propriétaire à respecter la charte des refuges LPO. Alors, je pense que Diane peut nous dire un peu ce que ça représente. Elle a dû le lire.
Surtout communiquer. Dès que j'observe quelque chose, je préviens Thierry Descouteurs. J'ai plusieurs autres interlocuteurs qui sont aussi membres de cette organisation et qui suivent un peu ce qui se passe.
Il y a d'autres gens de la LPO qui viennent
aussi. La communication sur ce qui se passe.
Sur les divers sites.
Oui.
Est-ce que vous allez sur d'autres sites en fait de la LPO chez d'autres gens pour voir un petit peu ce qui s'y passe hein?
Oui. Ben ça c'est la LPO qui organise des promenades et des visites de d'autres sites bien sûr. Mm-hmm. Oui.
Qu'est-ce que vous faites en particulier, à part les observer, ces oiseaux, parce qu'ils font leur vie, en fait, ici?
Oui.
Juste les protéger, libre.
Les nourrir l'hiver, les nourrir, oui.
Avec des graines.
Des graines de tournesol, les observer beaucoup, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut...
Comment ils fonctionnent.
Par exemple, là, je vois qu'il y a plein de chauves-souris dans un endroit, j'essaye d'éviter de les gêner. Mm-hmm. Et les hirondelles, on s'aperçoit qu'elles sont là, mais qu'elles ne nichent pas là, donc je serais intéressée de voir pourquoi pas les aider à nicher à nouveau là. Elles étaient beaucoup plus nombreuses il y a 15 ans, et là elles sont vraiment très... Elles sont là, mais en faible nombre. Peut-être parce qu'elles n'ont plus de lieu pour nicher, justement.
J'ai rencontré quelqu'un, en fait, à Feigneux, que j'ai surnommé Madame Hirondelle, parce qu'elle m'expliquait, en effet, que les hirondelles venaient plus chez elles. Elles étaient souvent chassées, en fait, de chez les gens, parce que, elles font des crottes, etc. Enfin, bon,
en fait, tu as deux variétés ici, hein, dans notre région, dans le Valois. Tu as principalement deux variétés d'hirondelles qui sont autour des maisons. C'est l'hirondelle des fenêtres, et comme son nom l'indique, c'est vrai qu'elle aime bien nicher, quel que soit le bâtiment. Hein, ça peut être un bâtiment moderne, par exemple, dans Crépy-en-Valois, dans les quartiers de HLM, etc. On a beaucoup de nids d'hirondelles qui vont s'installer dans les encoignures de fenêtres, dans les coins de fenêtres. Ça peut être aussi, bien sûr, devant une façade de mairie, etc. Alors parfois, c'est pas très apprécié des propriétaires qui trouvent que c'est salissant. Et ils essaient par tous les moyens de les empêcher de nicher, soit en mettant des petits artifices pour les empêcher de venir, soit en détruisant les nids. Alors ça, c'est strictement interdit. Hein. C'est une espèce qui est strictement protégée. Elle est en pleine, elle n'est pas en extinction, mais en tout cas, elle est en forte réduction. Mmh. Et ça, c'est vraiment, vraiment interdit aujourd'hui de toucher au nid. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette espèce-là qui est là. Hein. Et puis, il y a l'autre espèce qui est plutôt... rentre dans les bâtiments, dans les granges, dans les étables, dans les box, si vous avez des box, dans les auvents, etc. Et là, c'est l'hirondelle rustique, avec son grand filet. Alors, l'hirondelle rustique, elle est un peu moins chassée, parce que, justement, généralement, elle est dans des bâtiments où c'est moins visible. C'est des ateliers, ça peut être une grange.
Et là, il n'y en a pas, par exemple.
On n'en a pas vu, pour l'instant.
Il n'y en a pas.
Mais...
Il y en a déjà eu ici.
Il y en avait, quand je suis arrivée, il y en avait jusqu'à des centaines. Et elles viennent boire, là. Elles viennent manger les moustiques au sud de la mare. Elles font des tours, mais elles ne nichent pas là.
Après, il faut peut-être regarder, voir si les accès sont possibles. On a commencé la semaine dernière à regarder si les accès pour les hirondelles étaient possibles, parce qu'il faut quand même qu'elles puissent entrer quand elles le souhaitent. Et là, il faut regarder si par exemple, dans les granges, si elles pouvaient y avoir accès plus facilement. C'est partie des choses qu'on peut regarder. Mais pour revenir à cette convention que le propriétaire, effectivement, signe avec la LPO, alors c'est un devoir moral. C'est évidemment s'engager à ne pas déranger la biodiversité, pas seulement les oiseaux, mais les chiroptères, etc., pendant les périodes dites charnières, hein, la nidification, etc., Donc éviter de tailler les haies, éviter de remuer trop, de faire du bruit ou de tourner autour, ou bien de vouloir aller absolument voir ce qui se passe dans le nid. Ça, ça fait partie des choses qu'il faut absolument éviter.
Parce qu'on les perturbe, évidemment.
Évidemment. Alors, si possible, les nourrir et les aider, pour ceux qui restent l'hiver, les aider pendant l'hiver à passer l'hiver tranquillement. Et puis aussi, éviter l'usage de trop de produits nocifs, hein, parce que faut pas oublier que l'une des principales raisons diminution de certaines espèces, c'est les empoisonnements qui sont faits beaucoup par les particuliers aussi, il faut pas l'oublier, pas seulement l'agriculture mais ou l'industrie, mais aussi les particuliers. Et ça, ça fait partie des choses qu'on explique lors de la signature de la convention, et que les gens qui signent cette convention doivent normalement respecter, évidemment.
Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter
Ce qu'on peut ajouter, c'est que tout le monde peut, s'il le souhaite,
accueillir des oiseaux.
Accueillir la biodiversité aussi, les oiseaux évidemment, mais la biodiversité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour... il ne faut pas être... Voilà, il ne faut pas être un grand scientifique ou un grand spécialiste pour décider de faire de son terrain un refuge LPO. C'est aussi montrer sa détermination pour sauvegarder le patrimoine naturel local. Si 10%, 15%, on peut rêver 20% de la population s'engageait à dire, moi, dans mon jardin, je vais... pas tout tondre, mais je vais laisser une partie enherbée, je vais arrêter de tailler mes haies au mois de juillet, août, etc., etc. Je pense que déjà, on ferait un grand pas. Et ça, c'est pas grand-chose, quoi.
Est-ce qu'il y a des consignes qui seraient inscrites quelque part, par exemple, sur le site de la LPO pour ça ?
Oui, bien entendu, on peut aller sur le site de la LPO et regarder les informations, les dossiers qui existent. Hein, et puis, on peut se renseigner avant même de s'engager. C'est pas un gros engagement financier, hein, faut bien être conscient de ça. C'est symbolique, mais on peut évidemment demander le dossier, le recevoir par mail, l'étudier, s'en inspirer et faire en sorte que on change quelques habitudes. Des fois, ça suffit.
Bon, merci pour ces conseils, Thierry. Je vous remercie tous les deux, Diane et Thierry, et puis bon après-midi. C'était Anne-Laure pour RVM, j'étais au manoir du Plessis-aux-Bois, à côté de Vosciennes, en compagnie de Diane Lehec et Thierry Decouter de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, qui nous ont expliqué les oiseaux présents sur le site et ce qu'il fallait faire pour les accueillir et également œuvrer pour la biodiversité de manière plus générale. À bientôt sur RVM.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.